Radio Murmure.
Le bruit de fond des campagnes.
Radio Murmure. On monte le son.
Quand on les a vus arriver, on n'a pas cru qu'ils passeraient l'hiver.
J'ai mis 5 ans pour trouver une terre. Au début, on m'a prêté un terrain.
C'est vrai que monter un projet comme ça, c'était osé, mais ça a marché.
Ça nous a un peu bousculé au début, quand ils sont arrivés. Mais c'est pas si mal qu'ils soient là.
On est 8 à habiter sur ce lieu et on a acheté ça ensemble.
C'est comme ça que tout a commencé.
Bernard et Florence, un couple aux mille et une vies. Ils ont élevé 3 enfants, ont déménagé plus d'une fois et ont changé de métier au gré des rencontres et de leurs envies. Arrivés à la cinquantaine, ils ont eu envie de se lancer dans un nouveau défi, celui d'être paysans. Au revoir Manosque, le salariat et la ville. Bonjour la ferme du Prado, dans le village de Féline, en Auvergne.
C'est la fin de la saison des tisanes.
Ça sent bon.
Ouais. Voilà, donc normalement je fais mes tisanes ici l'hiver, mais cet hiver comme il a fait vraiment froid pendant 3 semaines là, j'ai tout emmené là-bas. Et j'ai fait les tisanes dans la maison qu'il y a là-bas.
Une tisane ou un thé alors ?
Pourquoi pas, ouais.
Toujours bien mélanger la tisane avant de la. Ne pas prendre que le dessus du paquet.
C'est riche, hein ?
Ah ouais.
On dirait du bonbon.
C'est la tisane de l'hiver, celle-ci.
Jaune, vert, rouge, comme Noël.
On habitait dans le sud et on a décidé de tout plaquer pour X raisons, parce qu'on avait envie de faire ça depuis longtemps et qu'on ne trouvait pas dans le sud. Et on a cherché pendant 20 ans, et puis que nos enfants devenaient grands, et que c'était maintenant ou jamais, et que nous, on devenait vieux, et que c'était maintenant ou jamais. Ça, on n'a pas fini de devenir vieux. Voilà, du coup, il fallait qu'on se bouge. On a trouvé, au bout de 2 ans et demi, le Prado, donc cet endroit qu'on n'a pas choisi, puisque c'est un bien qui nous a été attribué par la SAFER, et qu'on est bien content d'avoir trouvé, parce que c'est un bel endroit, il y a de l'eau, il y a de la bonne terre. Et l'idée, c'est de créer un lieu, voilà. Un lieu avec un support agricole et puis des ramifications dans toutes les dimensions humaines et notamment tout ce qui est médico-social, on va dire. Voilà, c'est ce qu'on travaillait tous les deux là-dedans.
Travailler dans quoi ?
On travaille tous les deux dans le social, hein, moi dans ce qu'on appelle la grande exclusion, les SDF et tout ça, quoi. Et bah, pour moi, c'était important de tourner la page. Parce qu'on y prend goût à la marge.
Mmh. Moi, je travaillais dans le médico-social plus. Je travaillais plus en psychiatrie. Et puis, en milieu carcéral, j'étais animatrice en psychomotricité. C'est-à-dire que j'animais des ateliers par le travail corporel et les arts plastiques.
L'agriculture ici, c'est 1 hectare de culture. Donc il y a à peu près, je sais pas combien il y a.
En fait, on a commencé, 5, notre projet 6... il a changé en fait. Là, on va attaquer la 4e saison. On attaque la 4e saison depuis une semaine. Et en fait, la première année, on était parti sur un projet de légumes de plein champ en demi-gros. Et puis, compte tenu du contexte géographique et économique, et puis nous aussi, qui n'étions pas spécialement compétents, on a été très vite confrontés à la réalité de l'agriculture auvergnate, dans tous les sens du terme. Et donc on a revu notre projet à la baisse du côté maraîchage. Et puis moi j'ai développé le côté plantes médicinales et les tisanes, les plants. Donc j'ai amorcé très vite la production de plants au printemps pour qu'on vende sur les marchés, sur les foires. Et puis il y a une petite. Maintenant ça a glissé du côté accélérer l'accueil. On veut faire l'accueil à la ferme, donc table d'hôte, chambre d'hôte, camping à la ferme. Avec donc aussi toutes ces animations autour de la construction paille, terre, le travail corporel, enfin tout ce qu'on a comme compétence, on pourra le mettre en œuvre. Et donc le jardin, il se limitera de plus en plus à la production de légumes pour les amis autour et puis pour la table d'hôte, quoi.
C'est quoi les difficultés alors de l'agriculture auvergnate dont tu parlais ?
Ben, le plus difficile, c'est la commercialisation. Nous, on vient d'une région où il y a beaucoup de groupements. Bernard a vécu dans le sud-ouest où le collectif au niveau de la commercialisation, c'est vraiment plus du tout un secret, quoi. Je veux dire, ils ont une espèce de jovialité à travailler ensemble aussi. Et nous, on ne connaissait pas l'Auvergne dans ce contexte-là. Et on a découvert que, il n'y a pas du tout de... Ça ne fédère pas. Les gens travaillent chacun dans leur coin. Et puis, ils fédèrent un peu au niveau technique, mais minimum syndical, on va dire. Et puis, c'est tellement... Je pense que c'est un métier dur en Auvergne. Il fait froid, les conditions sont assez difficiles. Du coup, chacun s'accroche. Et il y a la plateforme Bio63, bien sûr, ça fonctionne. Mais il y a des conditions qui, pour nous, étaient... impossible, c'est-à-dire il faut des légumes calibrés, il y a peu de gens qui sont capables de faire ça ici, parce que ça passe dans des machines.
Mais tout ce qui est pour les collectivités, c'est forcément... Il y a des exigences, quoi.
Même en bio.
On n'est pas capable de les tenir, même en bio, bien sûr, parce que, le cuistot qui travaille dans une cantine scolaire, lui, il est habitué à travailler avec des produits, avec des pommes de terre grosses comme des melons. Bon, il faut les carottes, c'est la même chose, donc il faut que ça soit calibré, et ce qu'ils veulent, c'est toujours des très gros calibres, quoi. Donc on peut pas tenir, nous. Donc au début, c'est vrai que c'était un peu dur, parce que après vendre dans nos Migros, on a l'impression qu'on brade carrément son travail, quoi. Donc c'est pas valorisant du tout.
Mais c'est un phénomène, on s'est rendu compte que c'était un phénomène général en Auvergne, par exemple pour le fromage, le Saint-Nectaire et tout, ils font pas ensemble, chacun fait dans sa ferme, ils se renvoient à l'ascenseur, là-bas il y en a encore, là si quelqu'un en a, mais il n'y a pas de maison ensemble, quoi. Donc c'est comme ça, c'est un mode de fonctionnement, donc il a fallu qu'on s'adapte. Du coup, on a accéléré le côté vente directe. On aimerait bien mettre en place ce que j'appelle un marché bistrot, mais je sais pas. On m'a parlé de marché captif il n'y a pas longtemps. C'est des termes dans le sud. On appelle ça les marchés captifs, c'est-à-dire de faire un marché par semaine où les gens peuvent venir acheter nos légumes, les tisanes, tout ce qu'ils veulent. Et puis de proposer à d'autres producteurs de faire à qui vend du pain, à qui vend du miel, à qui vend, je sais pas moi, ce qu'ils à vendre, quoi. Et puis avec la table d'hôte, essayer de vendre au maximum aux gens ce qu'on produit sur la ferme, les confitures, qui partent tous avec un panier de légumes, voilà, c'est un peu ça qui... On a vraiment envie de ça, quoi, de valoriser ce qu'on fait sans courir, parce que on n'est pas vieux, mais disons qu'on est un peu essoufflé, on a fait beaucoup de choses différentes dans notre vie, c'est pas la première fois qu'on passe à autre chose.
Donc on ne peut pas se mettre dans un cas de figure, on aurait 30 ans, une famille à élever, peut-être qu'on mettrait la gomme côté maraîchage, mais là, non. On se mécaniserait, on investirait, non, mais là, c'est pas jouable. Donc voilà, problème, c'est qu'il faut quand même arriver à vivre. Quoi.
Voilà, maintenant, c'est notre souci principal, c'est de gagner notre vie. Quoi. Là,
comme on n'a pas de fortune personnelle et qu'on fonctionne avec des budgets ric-rac, mais ça, c'est bien pour dire à des gens que c'est possible de le faire sans trop d'argent.
Bon, mais on faut un peu quand même. Hein.
On s'est quand même débrouillé, c'est qu'au niveau de l'achat, par exemple, de la propriété, on a acheté ça en collectif. Donc on est combien, 17 personnes ?
En tout, maintenant, on est 20. On est deux co-gérantes du GFA. Donc on fait chaque année une assemblée générale et on prend des décisions sérieuses.
Tu dis GFA, c'est quoi un GFA ?
Groupement foncier agricole. Et d'ailleurs souvent, longtemps, les gens, c'est un statut qui existe depuis très longtemps, et les gens pensaient que c'était groupement familial agricole, parce que c'était toujours dans le registre familial. Le GFA, ça fonctionne comme une SCI, c'est-à-dire en part. Alors il y a des gens qui ont une seule part, on a fait le choix de faire des statuts où la part est très basse, c'est-à-dire elle est à 100 euros, donc il y a des gens qui n'avaient pas de sous, on leur a même avancé une part parce qu'ils avaient envie de faire partie de l'aventure. En fait, on a fait une liste de nos amis qui n'avaient pas de soucis avec l'argent, c'est-à-dire pas de soucis, pas du côté en avoir, mais pas de soucis dans le lien à l'argent.
C'est ceux qu'on n'a pas contactés, ils le savent, c'est parce qu'on sait que leur lien à l'argent n'est pas clair et qu'on ne voulait pas que ça complique notre amitié. Donc on a contacté une partie de nos amis. Il y en a qui n'avaient pas d'argent, ils nous ont dit « Ah, moi j'aimerais bien en faire partie », alors on leur a avancé les 100 euros ou d'autres copains, enfin bon.
C'est facile de comprendre qu'on ne brasse pas d'argent. Voilà, le plus gros investisseur, il a investi 10 000 euros, donc voilà, pour acheter du foncier, c'est...
Moi j'avais une question par rapport au GFA justement, enfin, vous disiez vous avez découvert par la SAFER, et du coup tous les mécanismes et compagnie, vous avez appris sur le tas, vous avez inventé, vous avez... comment vous avez fait? Parce que dans le groupe, je pense qu'il n'y a personne qui connaissait, parce que c'était que j'ai un GFA.
Et, juriste,
non mais du coup, en c'est fait, comment on peut faire en fait
Internet avec... wow. C'est magique, c'est la boîte magique. En fait, je suis allée sur Internet chercher des statuts que j'ai trouvés. Et par contre, je les ai un peu adaptés, en fait. Parce qu'il y avait des... Par exemple, il y a des choses sur la propriété privée qu'on retrouve forcément sur l'héritage. Je prends cet exemple parce que, en fait, les gens qui ont acheté les parts sociales, ce n'est pas transmissible par héritage. Bien sûr qu'on ne peut pas refaire la loi et que, bien sûr, c'est... Mais les enfants ne peuvent recevoir les parts de leurs parents que si le GFA est d'accord. Et s'il n'est pas d'accord, il doit trouver un moyen pour que quelqu'un d'autre les achète. Ce n'est pas forcément les enfants de leurs parents qui font partie... Enfin, c'est vraiment une histoire de famille, une histoire d'amour, de famille, quoi. C'est une famille de cœur, quoi. Donc... ça marche pas à tous les coups, c'est pas transmissible ça. voilà. Donc c'est des petites choses comme ça qu'on a un peu modifiées, quoi, qui nous semblaient pour nous importantes, quoi.
Et pourquoi vous avez déjà été propriétaire privé et pourquoi vous avez souhaité passer à la propriété collective?
Parce que nous c'était pas le but de faire pépère et mémère qui retourne à la campagne, c'était pas le but du jeu, c'était... Puis moi, ça me motive, le fait que je sais pas, se préparer à l'Assemblée Générale, parler de si, on me demande, bon, les pommiers, ils en sont où, les fraises, elles en sont où, voilà, puis on voit les 18 visages, ils sont là, quoi. Donc on n'est pas seul, et donc le côté collectif, c'est pas c'est parce que j'en ai besoin, c'est pas pour...
Moi, c'est pas tout à fait pour les mêmes raisons. C'est que moi, je suis petite fille de communiste, fille de communiste. Je ne suis pas communiste. En tout cas, j'appartiens à aucun groupe, quel qu'il soit. Mais disons que j'ai envie de mettre en application des idées de contre la petitesse, contre voilà, de pas être dans le m'accrocher à quelque chose, ben voilà, ça c'est une mise en danger, voilà. En psychiatrie,
facile,
on appelle ça, en psychanalyse, on appelle ça une mise en danger. Donc c'est dans ma structure.
C'est plus facile à transmettre du coup, parce que là, si nous on arrête là dans quelques années d'être fermier, ben, c'est plus facile de retrouver un fermier. Le gars qui voudra reprendre ici sera pas bon, il sera obligé d'acheter quelque part forcément pour jouer le jeu, quoi, mais il sera pas obligé de débourser beaucoup d'argent, donc ça, c'est pour la transmission, c'est parfait, ça.
En ce qui me concerne, c'est vraiment lié à une position philosophico-politique, quoi. C'est qu'à une époque où tout se rétrécit, où les gens ont peur, bah, moi aussi j'ai peur, du coup j'ai décidé de me mettre en danger, parce que plus on est en danger, moins on a peur, en fait, c'est incroyable.
Et vous avez des enfants?
Et
du coup, la transmission, l'héritage aux enfants, est-ce que ça a compté pour vous dans ce choix-là? Parce que du coup, ils ne pourront pas hériter comme traditionnellement ça se passe dans les familles.
Non, mais ils participeront forcément à ce qui est collectif. Donc, il n'y a aucune raison qu'ils en soient exclus. Si un jour, ils veulent profiter de cet endroit, c'est archi ouvert. Hein. Mais après, oui, c'est vrai qu'on casse quelque chose au niveau de l'héritage, la propriété. Tout ce... Bon, bah, après, c'est de l'idéologie pure, après, hein. Après, on a envie de se positionner là-dessus, quitte à se pousser un peu, parce qu'on a tous des démons par rapport à ça, quoi. Donc, c'est très bien aussi de se dire, allez, on brise quelque chose, quoi.
Vous avez hérité de quelque chose, vous, de vos familles respectives?
Non.
Oh, un petit peu, quand même, ça nous a...
Ah oui, c'est vrai. Ma mère a vendu une maison, et j'ai hérité de 20 000 euros, ouais, ça, c'est vrai. Et ça a permis d'ailleurs...
Ça aide quand même, ça aide, quoi. Donc ça nous a... heureusement qu'il y a eu ça, d'ailleurs.
De pouvoir consacrer tout mon temps à la construction, parce que la construction, ça m'a pris presque 2 ans. Donc voilà, du coup, ça m'a évité d'aller travailler à l'extérieur.
C'est sûr que, là où le bas blesse, c'est vraiment dans le côté rentabilité, quoi. C'est que... Voilà, pour l'instant, on vit très chichement, quoi. Donc, nos enfants sont aussi dans l'aventure. Ils héritent en direct de nos problèmes financiers.
Ça veut dire quoi, vivre très chichement, si c'est pas indiscret, enfin, si...
Tu veux un chiffre?
Ouais.
On n'en a pas vraiment en tête. Ouais, je dirais qu'on vit avec peut-être 800 euros net par mois, quelque chose comme ça, quoi. On
a... autour de 1000 euros. Bon, c'est pas un exploit, mais, non, mais pour mais nous qui vivions avec deux salaires, eh ben c'est difficile de passer de 3500 ou 4000 euros à vivre comme ça. C'est, disons que c'est pas facile parce qu'on garde des mauvaises habitudes.
Ouais, 1000 euros net, quand je parle de 1000 euros net, c'est bon, y a beaucoup de factures qui tombent. Hein, c'est pas, je veux dire, c'est quand on a payé les fournitures, quand on a payé les sachets, les emballages, le gasoil. Enfin, après, il faut payer les factures MSA, les graines, le terreau, les machins. Bon, voilà, c'est l'argent qui circule. On va dire qu'on a une masse d'argent de 1000 euros à peu près par mois, et avec ça, il faut payer l'assurance. Donc l'idée, justement, c'est de réduire au maximum ce qui sort, pour qu'il y ait moins à rentrer. Du coup, voilà, l'idée du séchoir solaire, quand je parlais de ça tout à l'heure, c'est de réduire la consommation d'électricité, d'essayer de mettre une éolienne, mais bon, il faut du temps, on n'est que deux, et là, on se rend compte de l'urgence, là, il y a vraiment besoin qu'il y ait d'autres gens.
Et puis, partager le droit à Internet, partager le droit, parce que quand on a un petit budget, on se réalise, enfin, c'est très cher Internet, en fait, en proportion. Payer 40 euros par mois uniquement pour avoir un accès, c'est énorme, donc ça se partage.
Donc cette aventure, elle a un support agricole, mais l'idée, c'est aussi que ce soit un lieu avec d'autres activités et d'autres gens. Donc là, on est en train de tâtonner sur comment trouver des formules pour que d'autres gens viennent. Alors, il y a des gens qui se sont installés dans le village, là, hein, des jeunes qui sont apiculteurs, elle est couturière, et donc ils sont intéressés à faire des choses avec nous, mais ils habitent dans le village, ils ont leur maison, donc c'est déjà une formule de collectif. On est en train de faire un poulailler ensemble sur le Prado. Donc la ferme, elle s'appelle le Prado. Ça s'appelait comme ça sur le cadastre, donc on n'a pas compliqué. C'était bien beau. Et puis en fait, voilà, on essaie de trouver des solutions pour que des gens se relient au Prado. Et puis si on ne trouve pas localement, on mettra peut-être une annonce nationale pour créer peut-être un habitat groupé. On essaie de voir la part du lieu qui pourrait être attribuée à d'autres gens. Ou la grange, par exemple, moi j'aimerais bien en faire un lieu d'accueil médico-social, médico-socio-culturel, j'ai envie de dire. Parce que voilà, faut que ça puisse accueillir des groupes qui soient à la fois dans le médical, le psychiatrique ou le social, le juridique. Je pense à des réseaux comme la PJJ ou des groupes comme ça, mais des groupes accompagnés, et que ça soit que d'autres structures puissent les utiliser, quoi. Que nous, on soit plutôt dans la coordination du lieu. Puis les gens du village, ils sont plutôt sympathiques, ils sont plutôt ouverts. On fait une fête chaque année qu'on a appelée la Fête du Prado. Et les gens du village viennent. Pourtant, ils sont fâchés, ils ne se côtoient pas. Et ils viennent à la fête, ils ne se parlent pas, on s'arrange pour que ça se passe bien. Et en fait, c'est un signe, ils ont vraiment envie de vivre des trucs ensemble, faire la fête. Ils nous invitent chez eux. Enfin bon, voilà, on se dit qu'il y a des choses à faire avec les gens du village aussi, quoi. Bon, c'est pas le meilleur des mondes, hein, mais c'est aller vers ça, essayer.
Radio Murmure, une émission réalisée par Audrey Barat pour Radio Sainte-Afrique, à l'initiative du réseau des CREFAD, financée par la Datar Massif Central et les régions Auvergne, Limousin, Rhône-Alpes et Bourgogne.